about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Série.
Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Iris Bray, Lucille Como, Olivier Joyard pour parler ensemble des Sauvages de Rebecca Zlotowski et Sabri Loata, Mytho d'Albert Est et Fabrice Gobert. Il y aura un coup de cœur de Lucille Como pour Peaky Blinders saison 5. Et Lucille Como, qui ne chôme décidément pas, ouvrira son journal, le journal de la dispute, à la page consacrée aux séries qui deviennent des films. Nous ouvrons cette série, cette dispute plus exactement, avec Les Sauvages, dont la diffusion sur Canal+ a été très remarquée, qu'on peut toujours voir sur MyCanal. On peut aussi se procurer l'édition en DVD. Rebecca Zlotowski a adapté avec Sabri Loata la tétralogie de ce dernier, Les Sauvages, publiée chez Flammarion Versilio. En 6 épisodes de 52 minutes, on va suivre l'élection à la présidence de la République d'Hider Chaouch et les répercussions que cela va avoir sur son entourage proche et moins proche, d'autant que le soir même de la victoire, je ne divulgage pas grand-chose, je crois que c'est la fin du premier épisode, ou le début du second, je ne sais plus. En tout cas, bon, le président tout fraîchement élu est victime d'un attentat.
Le mal est là, tapis en chacun de nous. Nous sommes capables du meilleur. Et nous sommes capables du pire.
Monsieur le Président de la République française.
Les plus civilisés des hommes, les plus parfaits sauvages.
Ah, ils sont présidents, ils sont docteurs maintenant. Tous cousins.
Eh ouais.
Chaouch. T'en penses quoi, Chaouch?
J'ai pas voté pour lui, si c'est votre question. Finalement, tu peux continuer à te mentir et à dire que tu vas devenir un grand pianiste comme les fils de bourgeois. Ou faire partie du showbiz comme ton cousin et devenir un bel arabe tout beau, tout blanc.
On va aller à Saint-Étienne.
Cette image, c'est le début de tout mandat. Cette fois-ci, on a vraiment gagné.
Je suis pas un exemple.
On peut faire quelque chose, on doit faire quelque chose.
Moi, je préfère te dire la vérité. Je préfère te dire que tu vas pas y arriver.
Alors c'est ça, le pouvoir.
Et que tu vas souffrir. 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 Et que c'est comme ça que tu vas te libérer.
Nous parlons des Sauvages, co-signé Rebecca Zlotowski, Sabri Loata. Premier tour de table pour un peu prendre la température de vos avis, Olivier Joyard.
C'était la série sans doute que j'attendais le plus cette année dans les séries, parmi les séries françaises en tous les cas. Et j'ai été à la fois passionné par le spectre de ce qu'elle raconte et un tout petit peu perplexe à certains endroits, notamment là où elle va.
Iris Bray.
On a trouvé notre Catherine Bigelow française. Il était temps.
Lucille Como.
Moi, je trouve que ça commence très bien et que ça finit moins bien. Et je pense que c'est manque de temps, de développement narratif.
Bon, l'effet certain, c'est qu'on chante du Rameau.
Non-stop.
Non-stop dans le bureau de la dispute et sans doute aussi dans la tête de beaucoup des personnes qui ont vu cette série Les Sauvages. Alors, grande attente, Olivier Joyard. Alors, quand il y a une grande attente, c'est toujours compliqué.
Absolument, surtout que bon, alors il y a au départ des romans qui donc ont eu quand même un écho assez important, les romans de Sabri Loata, ne serait-ce que parce qu'ils parlent de quelque chose donc qui habite tellement la France aujourd'hui et qu'en même temps elle représente pas tant que ça. Enfin, c'est quand même une sorte de paradoxe contemporain de la création en France. Et puis de l'autre côté, c'est une série Canal+ et réalisée par Rebecca Zlotowski, qui est une des cinéastes les plus intéressantes aujourd'hui en France, qui en plus a sorti un film il y a à peine 2 mois, une fille facile. Et donc, j'ai plongé, en fait, dans cette histoire comme dans le grand récit de la France contemporaine, quoi. Je crois que c'est quand même ça l'ambition de la série. Et effectivement, c'est là où il y a potentiellement une forme de déception, c'est-à-dire que il faudrait pour ça faire plusieurs saisons, avoir le. D'ailleurs, il y a plusieurs tomes dans les romans de Sabri Loata, et il y a quelque chose d'extrêmement ramassé dans ce qui nous est présenté. Moi, il y a plein de choses que j'aime beaucoup. Il y a effectivement, Iris parle de Catherine Bigelow, je pense qu'elle développera là-dessus, mais c'est il y a une forme d'énergie qu'on voit assez rarement à la télé française, qui fonctionne pour moi surtout dans la mise en place de la série, c'est-à-dire dans les trois premiers épisodes, je dirais, et surtout dans les deux premiers que j'aime vraiment beaucoup. Donc moi, j'y ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant, c'est-à-dire des séries qui sont pas... C'est pas une série sur la banlieue, par exemple, c'est une série avec des personnages maghrébins, des personnages principaux maghrébins en grande majorité. Roche Dizem, mais beaucoup d'autres, notamment le rappeur Fianso, que je trouve assez extraordinaire, qui est une sorte de figure tragique du mal dans la série. Donc vraiment, de ce point de vue-là, on sent l'effort, en fait. Je trouve qu'on sent tout le temps l'effort de la série pour dépasser l'imaginaire français, télévisuel, classique. Et voilà, on pourra peut-être en parler ensuite, mais je trouve que la façon dont elle résout tout ça, de manière, je ne vais pas divulgâcher, mais à la fois réconciliatrice et d'un certain point de vue très pessimiste sur les divisions françaises, les fractures, ça arrive un tout petit peu comme un cheveu sur la soupe. On commence à s'habituer à ce monde-là, qui est un monde totalement nouveau, un président de la République maghrébin, c'est quand même extraordinaire de voir ça, en fait. Et voilà, ça, en fait, on n'en profite pas vraiment.
Iris Bray.
Moi, j'en ai quand même vraiment profité. Je dois dire que c'est un nouvel imaginaire qui se déploie devant nos yeux, qui, moi, m'a, à vrai dire, bouleversé, surtout ces deux premiers épisodes, où j'ai trouvé qu'il y avait même des fulgurances au niveau de la mise en scène, notamment le début du deuxième épisode qui se passe, les premières minutes dans un hélicoptère, et on voit les lumières de la ville de Paris, on voit une couverture qui scintille de doré, et puis il y a cette image de la femme du président qui sort de l'hélicoptère. Enfin, pour moi, c'est des images qui, je pense, resteront pendant très longtemps. J'étais vraiment prise, comme je l'ai rarement été, devant une série française. Et je me disais, enfin, ça fait du bien de voir ces visages nouveaux et de voir aussi, une mise en scène vraiment réfléchie qui se déploie dans l'univers sériel français. Ça n'arrive quand même pas tous les jours. Après, c'est vrai que toute l'intrigue autour de qui a tiré sur le président ne m'intéresse pas. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse, ce sont ces personnages-là qui sont des personnages qui parfois manquent un peu d'ampleur, je trouve, au fil de la saison. Et alors que je pense qu'il y avait beaucoup de choses à développer, je trouve que les personnages masculins sont beaucoup plus intéressants que les personnages féminins. J'ai l'impression qu'à partir de l'épisode 3 à l'épisode 6, les femmes entre elles ne parlent que d'hommes. Ou de choses qui sont exclusivement liées au féminin, sans tout divulgâcher. Et je trouve ça un peu réducteur quand on voit ce qui traverse le président et même tout le personnage joué par Fianso, qui comme Olivier l'a dit, c'est des nouvelles, c'est des figures tragiques qui tout d'un coup ont des nouveaux visages et qui font beaucoup de bien. Et j'avais envie qu'il y ait le même traitement, en fait, au niveau de la femme du président, de la fille du président, de la bodyguard du président, qui sont finalement que ça à la fin du sixième épisode pour moi.
Lucille Comeau, pour votre première prise de parole sur ces sauvages.
Oui, c'est une série qui a une ambition vraiment de série politique à suspense, comme on en connaît beaucoup aux États-Unis, beaucoup moins en France, donc on est forcément curieux. Et elle part sur une audace idéologique qui se développe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement cette histoire du premier président d'origine maghrébine. Après, il y a une forme de machine de réflexion politique qui se met en place, qui paraît intéressante, qui est même assez audacieuse, parce que la question de l'islamisme radical, faut se la coltiner dans une série, dans le monde contemporain, avec des évidemment des milliards d'images qui nous viennent en tête très très rapidement. Et ça commence très bien, c'est-à-dire que la radicalité, bon, sans trop expliquer, sans trop aller loin dans le récit, elle se situe pas là où on l'attend. toujours. Et il y a eu tout un débat au moment de débat sur l'islamisme radical où on parlait ou d'islamisation de la radicalité ou de radicalité de l'islam. Et là, on est vraiment dans l'option islamisation de la radicalité. C'est-à-dire que la radicalité existe dans ces milieux-là, dans les milieux populaires. Là, il se trouve que c'est l'islam, mais ça pourrait être autre chose. Et ça, d'une manière assez convaincante, la série le met en scène. Moi, il y a vous parliez d'images marquantes. Il y a une image vraiment très marquante pour moi, c'est l'arrivée de Nazir, donc le grand frère, qui est en effet interprété par Sofiane Zermani, qui est là pleinement acteur et qui explose tout. C'est-à-dire que, en fait, il est même tellement bon que, par contraste, il y a des petits problèmes de jeu, et je pense de jeu aussi du côté des actrices. Et cette apparition de ce personnage, donc en plein mariage traditionnel, porté par qui sort de prison, il est porté par ses amis avec de la fumée. Enfin, c'est extrêmement formel, donc il y a de la fumée, il y a des effets de lumière. Sa radicalité à lui, on ne peut pas immédiatement pointer son origine. Et c'est impressionnant, mais on ne sait pas pourquoi. Et donc ce personnage-là, il est passionnant. Le problème, c'est que à partir du troisième épisode, ça va trop vite. C'est-à-dire que la promesse de la série à suspense, en effet, elle est tenue, mais c'est au sacrifice de ce personnage-là, de sa complexité. Il y a un double retournement idéologique qui est vraiment très problématique. Et cette fin extrêmement, en effet, pacifiée autour du président Chaouch, elle rabat complètement toutes les complexités qui étaient mises en place dans les premiers épisodes. Donc d'un point de vue juste politique de ce que la série dit, c'est vraiment dommage. Je pense qu'on aurait eu un ou deux épisodes supplémentaires. Il y aurait eu développement de complexité, de pensée. De la même manière, il y a des problèmes de vraisemblance qui ne sont pas que des vraisemblances idéologiques. Il y a un problème de vraisemblance médicale à peu près générale. Oui. Sans en parler trop, c'est quand même vraiment pas du tout possible de figurer ça. Il y a aussi des virages amoureux, affectifs qui, pareil, je pense, faute de temps, sont extrêmement serrés. Donc on a du mal à suivre la psychologie des personnages. Et ça pose, je suis assez d'accord avec Iris, beaucoup plus de problèmes avec les personnages féminins qu'avec les personnages masculins qui sont en effet valorisés dans le dernier épisode. C'est dommage. Et le personnage de la fille du président, qui est donc qui a un rôle absolument central, puisqu'elle est à la fois conseillère politique, elle est au centre, c'est elle qui relie tous les milieux, est assez faible et, à mon avis, pas extrêmement bien interprété par Souleyya Yacoub, que je trouve un peu en dessous des autres, notamment dans sa confrontation avec Sofiane Zermani dans la scène du mariage. C'est assez cruel parce que elle est sous-écrite par rapport à ce personnage et par ailleurs aux facultés d'acteur de Sofiane.
Alors Sofiane Zermani, c'est vrai que l'acteur, on le connaît bien sur France Culture, où il a été un Gatsby extraordinaire et il était aussi dans l'adaptation de l'Odyssée cet été, moi, pour l'avoir vu sur scène plusieurs fois. C'était impressionnant, mais alors là, il y a quelque chose qui se passe à l'écran qui est tout à fait fracassant. Et puis, il y a aussi une métamorphose, pour moi, de Rebecca Zlotowski, que certes je trouve intéressante, mais qui là montre des choses en termes de mise en scène qu'on avait vu dans aucun de ces longs métrages cinéma. Enfin, je me demandais vraiment si c'était la même personne qui réalisait ça, notamment dans la rapidité, dans le côté Catherine Bigelow. C'est un très très grand compliment, hein, parce que pour moi Catherine Bigelow c'est très 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 haut dans mon panthéon. Mais
moi,
voilà,
ça, sur la mise en scène sur cette série, je trouve que bon, je sais pas.
Non, mais je poursuivrai tout à l'heure.
Non, mais c'est effectivement, il y a la métamorphose de Rebecca Zlotowski qui, en fait, thématiquement, il y avait déjà un personnage principal maghrébin dans son.
Non, je parle de forme.
Formellement, effectivement, c'est aux antipodes et ça ne ressemble même pas non plus à Grand Central.
Pas du tout.
On revoit. Mais ces films entre eux ne se ressemblent pas toujours non plus complètement.
Oui, enfin, ils sont loin de ce rythme-là, cette adrénaline-là. Il y a une capacité qu'elle a de faire, y compris des scènes de foule, avec beaucoup dans de protagonistes, stade. Dans le stade, même à la sortie de l'élection. Bon, la scène du stade, elle est compliquée pour autre chose. Mais on en revient, si on reste sur la forme, sur le format, on a quand même cette question-là qui se pose, parce qu'on est dans une émission série, 6x52, pour une adaptation de livre d'une très grande ampleur. C'est quand même problématique, Iris Bray.
Oui, c'est problématique au niveau de la... Voilà,
Sur la question de vraisemblance dont parlait Lucille Comeau, c'est évident, ça va beaucoup trop vite.
Ça va beaucoup trop vite. Moi, c'est pas vraiment ça qui m'a dérangée. Ce que je retiens quand même dans cette série, c'est que c'est des personnages que je n'ai jamais vu auparavant, que j'ai envie de voir, et qu'on a une très grande mise en scène, et que ça ne m'arrive rarement de souligner ça dans une série française. Donc j'ai quand même l'impression qu'il y a une telle marge de progression par rapport à d'autres autres séries Canal comme Engrenage ou Le Bureau des légendes où formellement je m'embête. Enfin là, j'étais vraiment beaucoup plus prise. Enfin dans cet épisode 2 où finalement enfin j'ai l'impression qu'elle sait toujours où poser sa caméra. C'est-à-dire qu'elle est toujours du bon point de vue et ça c'est extrêmement rare. Ça veut dire qu'il y a une compréhension de ce qu'elle raconte qui rajoute quelque chose à cette série qui pour moi, sur toutes les questions idéologiques, oui, ça va trop rapidement à la fin, mais finalement, c'est pas grave, parce que moi, elle m'a montré des images que je n'ai jamais vues auparavant et auxquelles j'ai envie de retourner. Moi-même, cette séquence d'hélicoptère, avec le vent, ça m'a fait penser à John Ford. Enfin, je veux dire, moi, je suis à ce niveau-là.
Ah ouais, carrément. Bon, vous êtes un peu dur sur Engrenage. En tout cas, Engrenage par le passé, on a parlé de la dernière saison ici, qu'on avait peu goûté. Sur Le Bureau des légendes, on verra quand Jacques Audiard présentera ses épisodes bientôt. Sur le reste de la distribution quand même, puisque on a cité quelques noms, Dali Ben Salah, qui est le jeune premier, n'a pas rendu insensible tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Lina Koudry, qui est à l'affiche cette semaine du film Papicha aussi, qui est là, qui est présente. Alors c'est vrai que le rôle ou l'utilité des personnages, et on n'est pas tous servis de la même façon, et c'est vrai que les personnages masculins ont quand même une prédominance narrative assez conséquente, Olivier Joyard.
Oui, c'est ce qu'on peut on peut le dire. C'est-à-dire que Iris l'a décrit tout à l'heure. J'ai l'impression que Rebecca Zlotowski et Sabri Luata, en devant n'écrire que 6 épisodes et en réaliser 6, on a un peu lâché l'affaire sur certaines choses, en fait. Ils ont sans doute suivi la ligne de force principale, le président, la personne qui... Enfin, c'est les personnes qui le mettent en danger. Et puis, cette histoire de deux familles, quand même. Et donc, c'est des figures pas vraiment de patriarches, mais enfin, c'est quand même assez proche de cette idée-là.
On parlait de la fille, la femme, elle est pas mieux. Amira Khazar, c'est quand même...
Non. Elle est absente.
C'est quand même terrible, là.
Comment dire que je trouve ça désolant, évidemment, en fait. Mais j'ai l'habitude. Et de ce point de vue-là, c'est moins bien qu'Engrenage, pour le coup. Oui, il y a quand même, avec Lorberto, un personnage féminin assez magique. La salle depuis 15 ans.
Mais c'est vrai qu'il y a une figure qui devrait être importante, c'est celle du plus proche conseiller du président Chaouch. En plus, c'est interprété par Gerard Watkins, qui est un immense acteur. Et là aussi, il y a quand même une réduction vers des caricatures. Il y a une sorte de simplification des enjeux politiques qui est quand même un peu embêtante. On a beaucoup aimé cette série, donc il faut quand même qu'on pointe aussi ce qui ne va pas. Lucille Comeau.
Oui, puis le personnage qui est interprété par Marina Foïs de Garde du Corps, c'est une femme qui gère absolument toute la sécurité du président. Donc c'est un choix assez fort. Ouais. Et qui, au départ, est le point de vue.
Ça, c'est le cas aussi pour les vrais présidents.
Oui, oui, tout à fait. Mais on la perd vraiment au fil de la série. C'est-à-dire que, par exemple, cette grande scène de mariage, qui est la séquence clé où tout se met en place en termes de mécanique, même de suspense, c'est à travers son regard qu'on la voit. Donc, dans une gestion de risque permanente. C'est-à-dire qu'en tant que spectateur, on est amené, dans cette scène de mariage, à avoir exactement le même regard sur les personnages que le garde du corps du président. Ça, c'est assez passionnant comme travail sur le point de vue. Et c'est vrai que là, Rebecca Zlotowski, elle a fait quelque chose en termes de réalisation qui est très intéressant. Et ça, on le perd. Les deux derniers épisodes, il n'y a pas de point de vue. Le point de vue, il n'est pas relayé par un personnage. On change en permanence de point de vue. Ça aplatit beaucoup, beaucoup l'action et ça perd, du coup, en efficacité narrative aussi.
Bon, est-ce qu'on attend la saison 2 ?
Oui.
Sauvage.
Alors, je crois.
Est-ce qu'elle est prévue d'abord ? Parce que nous, on l'attend comme spectateur peut-être, mais est-ce qu'elle est prévue ?
Non. Pour répondre rapidement, crois qu'elle n'est pas prévue. C'est, en tout cas, peut-être pas avec Rebecca Zlotowski. Je ne crois pas qu'elle ait le désir de s'investir autant qu'elle s'est investie, parce que je crois qu'elle a vraiment travaillé une année entière, voire plus. Et oui, le résultat est quand même à la hauteur de quelque chose de singulier dans la fiction française. Mais à la limite, c'est presque un problème de politique industrielle.
Bien sûr, parce que s'il devait y avoir une saison 2, on l'aurait dans 3 ans, quoi, à la française.
Ils auraient pu prévoir tout de suite 3 saisons.
Bien sûr.
Des deux derniers épisodes. Moi, j'adore les 10 dernières minutes, je les trouve très belles. Mais elles auraient dû venir après 3 ans de nos vies, en fait.
Oui. Bon, encore un effort, mais quand même. Beaucoup de belles choses et de bonnes choses dans cette série de Rebecca Zlotowski et Sabri Luata, Les Sauvages, qu'on peut voir sur MyCanal et qui est disponible également en DVD. On va parler d'une autre série française ce soir qui est-elle en cours de diffusion sur j'allais dire l'Hertzien, mais sur la TNT de nos jours. C'est Mytho d'Anne Berest et Fabrice Gobert. On parlera de Peaky Blinders et de ces séries qui deviennent des films.
France Culture, La Dispute, Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute avec Mytho d'Anne Berest et Fabrice Gobert, réalisé par ce dernier, dont les trois premiers épisodes ont été diffusés hier sur Arte, donc on a eu le communiqué qui... Bon, toujours les communiqués sont faits pour dire que c'est un beau succès d'audience, mais en l'occurrence, il me semble qu'avec... alors l'audience moyenne sur les trois épisodes, parce qu'on en passe trois d'un coup hier, trois la semaine prochaine, bon ça c'est une aberration que je ne m'explique pas, 900 000 téléspectateurs en moyenne, c'est quand même, il me semble, en effet, un beau score. Donc la suite la semaine prochaine, pour ceux qui ne regardent que sur la télé de flux, et on peut trouver bien sûr en intégralité sur Arte TV, jusqu'au 31 octobre, ces épisodes de Mytho, également en DVD et VOD. Bon, de quoi ça parle? On est dans une banlieue pavillonnaire, une mère de famille qui travaille la journée pour une compagnie d'assurance, qui travaille le reste du temps pour sa famille, une famille qui ne se soucie pas beaucoup d'elle, que ce soit son mari ou que ce soit ses trois enfants, le mari photographe aux velléités artistiques, on va dire ça comme ça. Alors, que faire pour attirer leur attention et puis aussi peut-être pour restaurer son estime de soi?
Vous avez des problèmes personnels? Non, mais j'en ai rien à foutre.
Vous êtes débordé par vos enfants?
Et puis j'ai
votre travail? L'esclavage de la femme moderne?
T'as pas acheté les chips?
J'ai menti à Patrick.
Qu'est-ce que c'est?
Une tumeur.
Cette alerte, c'est une chance. Et je suis là, t'inquiète pas.
Je sais pas comment revenir en arrière.
Le mensonge, Elvira. C'est pas à la portée de monsieur et madame tout le monde.
Ce que je vous demande à tous, c'est de vous tenir à carreau. Edouard, le ménage, et surtout d'en parler à personne.
S'étonne que les gosses aient du stress après.
Tu trouves que je suis pas assez attentif à ta mère?
Parfois, on a l'impression que t'en as rien à foutre d'elle.
Tu voudrais toujours m'épouser, même si on se rend compte que j'ai rien?
Bah, évidemment.
Plus j'étais malade et plus... C'était comme si quelque chose était venu ressouder notre famille.
Mytho, en ce moment, sur Arte. Premières impressions sur cette série. Impression d'abord synthétique, Iris Bray.
Je pense que c'est un des meilleurs pitchs de série française que j'ai entendu, mais qui, malheureusement, au fil des épisodes, devient extrêmement redondant.
Lucille Como.
Alors moi, c'est exactement l'inverse. Moi, je trouve ça très fin et je trouve qu'au vu du projet, c'était pas gagné.
Olivier Joyard.
Moi, je trouve que c'est la rencontre de l'univers de Fabrice Gobert qui avait fait Les Revenants, donc fantastique et inquiétant, avec un imaginaire plutôt anglo-saxon, de comédie familiale et portrait féminin, que je trouve assez habile et subtil.
Bon, alors je commence du coup par Lucille Como pour la parole la plus positive d'abord.
Bah oui, c'est pas facile de s'emparer de ce type de personnage. Bon, on entendait une forme de caricature de la bande-annonce, parce que ça caricature vraiment le personnage principal qui est en effet une desperate housewife. Ouais. Enfin, elle est même pas house comme wife, mais moi, bon, elle est pas femme au foyer. Mais ah, bah, on
en plus, elle travaille la journée, elle fait ses 35 heures, et en plus, les autres sœurs.
Donc du coup, c'est un personnage qui repasse par-dessus toute une galerie de personnages et également par-dessus tout un discours qu'on entend beaucoup sur la charge mentale des femmes qui travaillent et qui sont mères aussi. Et ces clichés-là, ils sont aussi par miroir des clichés de son entourage, c'est-à-dire le mari volage, un peu ado, quand fout pas une rame, et puis les ados turbulents, les enfants ingrats, tout ça, on est en terrain extrêmement connu. Donc moi, j'ai eu peur pendant, disons, la première demi-heure. En plus, la référence à Desperate Housewife, elle est vraiment très très limpide dans le premier épisode, dans la manière dont est filmée la rue dans laquelle habite la famille, puisque tous les voisins s'observent d'une vitre à l'autre. En fait, c'est pas tant une banlieue française qu'une ville vraiment à l'américaine. Tous les lieux ont une fonction extrêmement précise, c'est-à-dire la pharmacie s'appelle pharmacie, la pharmacienne habite juste en face de la pharmacie.
C'est du côté de Marne-la-Vallée, on imagine.
Oui, voilà, ville nouvelle, tous les lieux ont une fonction dans une vie qui est uniquement fonctionnelle. Ça, c'est traité assez de manière assez intéressante dans la mise en scène, dans la gestion des décors. Je trouve ça assez fin. Et puis elle développe même au-delà de ce mensonge qui se met en place, qui m'intéresse pas tant que ça, en fait, cette histoire de s'inventer un cancer, une tumeur pour avoir de l'attention, en gros. Elle se développe, je trouve, de manière très fine, jusqu'à une scène que je trouve vraiment assez éclatante, une scène d'explication qui intervient à la fin de la série, en plan séquence où elle balance tout à sa famille qui est complètement prostrée en face d'elle avec une
consternée
force. Et là, plutôt. Oui, voilà, tout à fait. Mais on ne sait pas trop, en fait, quelle réaction ils vont avoir. C'est assez
non, mais ils sont d'abord consternés.
Oui, oui, tout à fait.
C'est pas la même chose d'être prostré et consterné, c'est ça que je voulais dire.
Oui, c'est vrai. Et là, je trouve que toute la, bon, déjà, le jeu de Marina Hans explose à ce moment-là. C'est extrêmement beau ce qu'elle fait en termes d'émotion. Enfin, j'étais très émue par ce passage-là. Après, je pense que, bon, je reviendrai, c'est une forme très littéraire. Ça marche très bien dans justement ce qu'il y a de plus littéraire. Par contre, sur d'autres clichés ou disons codes de séries qui interviennent, notamment toute la série de lycée, la high school show où parce que les filles vont au lycée, donc elles ont leurs propres histoires d'adolescentes. Je trouve ça beaucoup plus faible et ça crée une sorte de ventre mou, quelque chose dans le milieu de la série qui fonctionne vraiment bien.
Alors Iris Bray, meilleur pitch mais pas à la hauteur de la série.
Ben, je rejoins un peu ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que toutes les intrigues secondaires pour moi sont vraiment bâclées et inintéressantes et je m'embête au plus haut point quand Marina Hans disparaît de l'écran. Mmh. Ce qui m'intéresse en fait dans ce pitch de départ, c'est que ça permet à cette héroïne d'imaginer quelque chose de totalement de différent en fait d'une Desperate Housewife et de voir ce personnage qui s'amuse à s'imaginer comme étant autre chose qu'une mère de famille et une employée. Il y a quelque chose qui pétille dans l'œil de l'actrice qu'on ressent nous spectateurs spectatrices et qui permet d'imaginer un ailleurs qui serait beaucoup plus excitant. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on voit rarement dans les personnages féminins dans nos fictions françaises, qui m'a beaucoup réjouie et je me suis attachée très rapidement à ce personnage. Malheureusement, comme au bout du deuxième épisode, toutes les intrigues secondaires, que ce soit le mari qui a cette autre histoire d'amour ou chaque trajectoire des trois filles, je les trouve bâclées. Et je les trouve, ça manque vraiment de profondeur. On a l'impression qu'on n'ose pas vraiment y aller. C'est-à-dire qu'il y a une des filles qui est trans, mais bon, ça va être résolu rapidement dans un dernier épisode. Il y a toute cette histoire d'une des voisines qui a un espèce de culte, mais qui ne m'intéresse absolument pas. Et pour tout vous dire, c'est-à-dire que ce sixième épisode ne va rien régler. Et en plus, il y a une espèce de sous-intrigue, d'un mystère, d'un prénom qui est tatoué sur le corps de Marina Hans. Donc, bon, franchement, non. En fait, c'est elle qui est intéressante. Pourquoi ne pas rester que sur elle et développer ce personnage féminin jusqu'au bout et de voir qu'est-ce que ça fait de s'imaginer ailleurs. C'est-à-dire, c'est ce déplacement intérieur qui moi, me fascine. Alors certes, c'est sûrement très difficile à écrire et à filmer un déplacement intérieur, mais finalement, moi, c'est ce qui m'a intéressé le plus.
Alors, sur les sous-intrigues, je vous donne la parole à Olivier Joyard, celle du prénom tatoué. Moi, j'espère bien que ça ouvre sur une saison 2. Sinon, alors effectivement, ça ne sert strictement à rien. Ça flèche très vivement une saison 2.
Oui.
Bon, mais si elle n'a pas lieu, évidemment, ce sera du temps perdu. Je suis pas d'accord avec vous sur l'histoire connexe du mari avec du mari adultère qui, elle, pour le coup, existe. Autant celle des enfants, c'est plus compliqué, mais j'y reviendrai. Olivier Joyard.
Je pense que la saison 2 est prévue. Ah. Elle est d'ailleurs en écriture, mais ça, c'est depuis le début. Hein.
Il me semble, parce que ça flèche vraiment la saison 2.
Et je pense que ça colore, en fait, cette première saison différemment des Sauvages, par exemple. Puisque je vois plus de destination, même si effectivement cette intrigue venue d'ailleurs est un pour le moins comment dire balancée comme ça comme une sorte de mystère un peu gratuit. Et puis je rejoins Iris moi sur les intrigues secondaires. Je suis extrêmement déçu que les enfants qui sont en plus des personnages, donc une jeune fille trans et puis l'autre qui est un peu dark. Enfin, post-ado rebelle, finalement pas grand-chose se passe. Je pense que c'est vraiment les adultes qui intéressent Anne Berest et Fabrice Gobert. Donc c'est et c'est moi alors là pour le coup pardon pour avoir employé cette expression que tout le monde emploie aujourd'hui, je pense vraiment que ce qui font du personnage de Marina Hunt, c'est qu'on ne s'en détache pas du tout. Moi j'ai pas du tout senti de manque, je l'ai pas trouvée absente à aucun moment, et je trouve que on filme sa trajectoire de manière très très nette. En fait, c'est là où l'écriture d'Anne Berest, qui est assez fine je pense sur les sentiments, et la mise en scène de Fabrice Gobert, qui elle est assez, je dirais, voyante, qui impose toujours des cadres et qui met toujours les personnages face à leurs ombres, leurs sentiments. Je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Il y a vraiment un plaisir, en plus une légèreté à la regarder comme ça, se défaire de ce qui l'attache. Et puis c'est une femme qui, dont on dit on la condamne pas pour son mensonge à aucun moment. Ses enfants, sa famille la condamnent, mais à ce moment-là, ils sont filmés comme des zombies en fait par Gobert. Vraiment, ça me fait penser au Revenant. Ils sont quatre là face à elle et ils la regardent, et on dirait vraiment qu'ils datent du début des années 2010 dans une maison perdue dans la montagne en Savoie. Donc, je pense que vraiment, il y a quelque chose d'extrêmement libérateur pour à la fois regarder ce personnage pour ce que peut faire une fiction française aussi. Parce que le producteur de cette série, c'est Bruno Nahon, qui avait fait Ainsi soit-il. Fabrice Gobert, qui avait donc produit Ainsi soit-il. Fabrice Gobert, lui, a réalisé les deux saisons des Revenants. Donc, en fait, ça ne vient pas de nulle part.
Bien sûr.
Fait Paris, etc. Donc, elle est un peu plus récente dans l'univers des séries. Mais donc, il y a quelque chose d'un savoir-faire.
Savoir-faire, oui.
Et finalement, ça fait un peu de bien, je trouve.
Ah, ben, ça fait beaucoup de bien.
D'autant plus que la série reste fragile, malgré tout, et assez charmante de ce point de vue-là. Quoi.
Ah, parce qu'on a fait quand même un certain nombre d'émissions séries en désespérant de pouvoir programmer de la création française. Là, ce soir, là, on a sommaire. Les Sauvages et Mito, on est content.
Deux propositions de mise en scène
vraiment
qui n'ont rien à voir, qui sont intéressantes toutes les deux. Et moi, je trouve que c'est vraiment notable.
Il y a d'autres choses qui arrivent dans la production française qui ne sont pas du même niveau. Mais au-delà des questions des intrigues parallèles, ce qui est curieux quand même, c'est qu'il y a pour moi, il y a en tout cas un plaisir à voir certains des personnages secondaires. D'abord parce que ce sont des très bons acteurs aussi. C'est quand même, ils existent. Si les histoires ne sont pas très bonnes, je trouve que les personnages existent, ce qui est un peu paradoxal.
Ils sont incarnés.
Mais ce qui pourrait vouloir dire que la série, en effet, pourrait durer plusieurs saisons, que ce soit le frère. Mathieu Demy, c'est le mari, il est quand même assez génial, mais ça fait longtemps que ça, c'est le cas. Jean-Charles Cliché, qu'on voit de plus en plus souvent, qui joue le beau-frère de Marina Hans, mais aussi, Maud Weiler, c'est un rôle dont on imagine qu'il sera pas récurrent, je ne divulgâche rien, mais Julia Faure, ou la fille Marie Drion, je trouve qu'elle a quelque chose dans le jeu qui est vraiment intéressant. Enfin, on a envie de les revoir, ces personnages-là, donc c'est une bonne nouvelle qu'une saison 2 soit en chantier. Il reste que Marina Hans, en effet, je suis d'accord avec vous, est quand même le monolithe de la série qui nous fascine, Iris Bray.
Oui, et je pense que ce qui est intéressant dans l'incarnation de ces personnages, c'est justement, j'ai envie de dire, l'inquiétant familier, cette notion freudienne qui existait déjà beaucoup chez Gobert et que Gobert s'est filmé dans ces personnages, mais qui, moi, du coup, me manque un petit peu sur la fin. J'ai envie qu'on aille plus loin dans le fantastique, en fait, plus loin dans la folie, plus loin dans les zones d'ombre. Et je trouve que... Je ne peux pas parler de la fin, mais il y a un feu, et je trouve que ce feu, par exemple, pourrait être utilisé de manière beaucoup plus pour nous raconter quelque chose d'horrifique et qu'on aille un peu plus dans ces incursions-là. Qu'est-ce que c'est que la femme monstrueuse, puisque finalement, c'est le terme qu'utilise son mari à un moment, le monstre. Moi, je pense que c'est là, en fait, où il y a une vraie sève et une vraie substance, autant dans l'écriture que dans la réalisation, qui me manque sur les derniers épisodes, parce que il y a une parenthèse enchantée à la fin de l'épisode 2 qui m'a beaucoup séduite, et je me suis dit, tiens, ils font des pas de côté, ils essayent des choses, et je pensais que ça allait aller beaucoup plus loin, et j'ai l'impression que tout d'un coup ils sont devenus beaucoup plus sages et que tout est devenu beaucoup plus tiède, alors que je pense qu'on peut pousser toutes ces intrigues, même les personnages des enfants, en disant qu'eux aussi sont des personnages complexes et puissants et aussi très noirs, et j'ai envie de voir la noirceur. Je trouve que on tombe trop rapidement dans le côté américain Desperate Housewives.
Bon, on peut espérer et leur souhaiter la durée pour creuser ces personnages. Encore quelques mots, Lucille Comeau.
Il y a quand même une forme d'étrangeté qui tient justement à la gratuité de certains personnages secondaires, par exemple le patron qu'on entendait dans la bande-annonce, qui a une scène finale qu'on ne révélera pas, mais il y a des passages comme ça qui ne servent a priori à rien.
Ouais, mais il a une dimension pour le coup très inquiétante.
Oui, et lui, sa scène finale, elle est très belle, c'est très très bien mis en scène, je trouve, de toute façon, le dernier épisode. De la même manière qu'en effet, cette espèce d'infléchissement italien qui sort de nulle part peut à la fois présager d'une forme de gratuité qui ouvre, et moi je trouve qu'on a besoin d'air dans les séries françaises, donc ça fait du bien, qui présage d'une deuxième saison. Moi le tableau final m'a vraiment ravi, à la fois dans l'efficacité de ce qu'il propose en termes de suspense et aussi de non-résolution totale de l'histoire, quoi, de la narration.
Olivier Joyard, vous voulez conclure?
Je trouve que ça fait du bien de voir une série mise en scène avec cette ambition-là. Gobert met un peu de Twin Peaks dans la fiction française, alors qu'on ne m'avait rien demandé, quoi. C'est vraiment bien.
Ben voilà, deux séries françaises récentes, actuellement visibles en tout cas. Ça nous fait du bien. Mytho, Dan Berest et Fabrice Gobert, c'est sur Arte. La suite des épisodes, c'est 17 octobre, jeudi prochain. C'est bien sûr disponible sur Arte TV jusqu'au 31 octobre.
I sleep, I dream, and in my dream, someone wants my crown.
So Tommy Shelby, it's what you want, it's what you shall have.
Les fans les plus pointus ont reconnu Peaky Blinders.
Et leur accent.
Leur accent. Moi, je crois que je me suis arrêté au troisième épisode de la saison 1. On en est à la saison 5, paraît-il, et c'est votre coup de cœur, Lucille Gaumont.
Oui, saison 5 déjà de cette série britannique créée par Stephen Knight. Alors, depuis des années, on suit cette famille d'origine tzigane qui tient dans les années 20 à peu près tous les lieux malfamés de Birmingham et qui l'a clairement appris du galon, puisque Tommy Shelby, le héros, interprété par Cillian Murphy, qui est millionnaire, charismatique, non content de gérer toute la pègre alentour et d'organiser des trafics d'opium, siège aussi au Parlement depuis peu et fume le cigare avec Winston Churchill, pour lequel il accomplit des besognes plus ou moins basses. Alors quand cette saison 5 ouvre, on est en 29, le crash boursier rebat les cartes, la famille Shelby a perdu beaucoup dans la faillite des banques américaines et par ailleurs, une nouvelle menace plane sous la forme d'un ministre arrogant et ambitieux qui fait pression sur Thomas Shelby pour qu'il crée avec lui un nouveau parti politique, le parti fasciste, est aux portes de l'Angleterre. Alors l'atmosphère est plus noire que jamais, il fait jamais jour. J'ai regardé, je pense qu'il fait jamais jour à Birmingham et on retrouve ce qui fait le sel de la série, qui plaît d'ailleurs autant qu'il déplaît, je sais que ça agace profondément. Un formalisme poussé avec mince effet de fumée, des décors à la bougie, des ralentis à n'en plus finir et puis surtout cet usage complètement anachronique de rock des années 80-90. Tommy s'allume une cigarette, Tommy boit du whisky, Tommy ajuste son béret, il tire sur ses manches, c'est tout le temps parfaitement ajusté. Le plaisir que procure cette série est clairement là, dans cette fétichisation du personnage principal. Une fétichisation vieille comme le cinéma, puisque là, vraiment, Thomas Shelby prend toutes les dimensions du parrain, empruntant à tous les codes du film de mafia, mais aussi parfois du western. Un parrain torturé et mystique, c'est lourd, c'est noir, c'est bon comme un whisky. Un whisky irlandais, il boit que du whisky irlandais.
Alors là, vous allez me donner envie, peut-être.
Et pour autant, mais c'est justement ça qui fonctionne, le formalisme ne gâche pas l'efficacité du récit qui est à nouveau dans cette saison, alors que c'était moins évident dans les saisons précédentes, très serré, avec un dernier épisode magistral comme un bon film d'espionnage dans ce qu'il ménage de suspens et dans la boucle qui l'opère. Nous sommes dans la tête de Thomas Shelby et nous jouissons allègrement de ses pires cauchemars.
La saison 5 de Peaky Blinders, c'est sur Arte. C'est disponible sur Netflix ?
Et sur Netflix.
Déjà
c'est
la saison 5 aussi ?
Pas encore sur Arte,
non.
Ça va être diffusé sur Arte et là c'est déjà sur Netflix. Ouais,
bon,
tout à fait.
Ben voilà, gratuit ou payant. Gratuit, vous payez votre redevance, hein. J'ai intérêt. Le Como Show se poursuit ce soir, puisque Lucille a décidé de garder la parole. On va rentrer chez nous. C'est le moment du journal de la dispute. Et d'habitude, vous griffonnez une vague phrase de lancement sur un aspect que je n'arrive pas à lire, puisque vous étiez en train déjà de faire votre coup de cœur. On n'entend plus que vous, Lucille. À quand sur grand écran, Lucille Como ?
Oui, c'est pas encore maintenant.
Enfin, pas encore ?
J'aimerais bien jouer dans, du coup, le film Peaky Blinders, s'il sort un jour. Voilà, je lance un appel comme ça.
Très bien. Le sujet, effectivement, les séries qui deviennent des films.
Oui, les relations entre cinéma et télévision sont toujours incestueuses, encore plus depuis que les plateformes comme Netflix se mêlent de produire et diffuser leurs propres films. Depuis aussi que la durée des épisodes ne se limite plus au format traditionnel, mais peuvent allègrement varier et atteindre facilement l'heure et demie. Et je ne parle pas de ces salles de cinéma qui proposent de voir des séries sur grand écran. Alors ce soir, un cas particulier, les films qui émanent de séries. Deux exemples récents permettent de penser ce transfert, Downton Abbey et El Camino. Alors, Downton Abbey, rapidement, c'est une série anglaise diffusée à partir de 2010 qui raconte l'histoire d'une famille d'aristocrates et de leurs domestiques dans un domaine entre 1912 et 1926. La série a connu un succès fulgurant et international. Et depuis quelques années, ça a duré longtemps, les inconditionnels de l'accent sophistiqué du Yorkshire, des tasses de thé et des napperons attendent le film, sorti finalement il y a une quinzaine de jours. Alors, l'autre occurrence, rien à voir, c'est El Camino, sorti ce matin sur Netflix, réalisé par le showrunner de Breaking Bad, autre série mythique, américaine celle-là, qui racontait l'ascension fulgurante d'un prof de chimie atteint d'un cancer qui, pour assurer le confort de sa famille, devenait le plus important fournisseur de méthadone du pays. Ce qui est intéressant, c'est de questionner le rapport dans lequel le film s'inscrit par rapport à la série. On pourrait imaginer que le film choisisse un angle, un personnage à approfondir, qu'il conserve par exemple le milieu de la série, le trafic de drogue, imaginons, et il campe de nouveaux personnages et un nouveau récit unitaire. On peut aussi supposer que la différence de format entre le petit et le grand écran induise des choses différentes, des choix de forme, des mises en scène différentes. On peut aussi imaginer enfin que le film se positionne dans une temporalité singulière par rapport à la série, en proposant par exemple une genèse de la série, au contraire une suite. En l'occurrence, les deux films se placent dans ce rapport chronologique très simple, dans les deux cas l'action reprend comme si de rien n'était, et propose une suite absolument directe. Dans El Camino, il y a même un previously interminable pour résumer toute la série. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. À Downton Abbey, ouais, la situation familiale est absolument telle qu'elle que laissée dans les derniers épisodes. Elle se trouve, en l'occurrence, bouleversée par le séjour au manoir de la famille royale et de ses domestiques. Dans El Camino, on retrouve Jesse Pinkman, l'éternel acolyte de Walter White, à peu près le seul survivant de toute façon de l'énorme fiasco final. Il est recherché par la police, il a besoin d'argent et on suit pendant deux heures sa fuite et sa traque. On peut donc décemment, au-delà de la qualité selon moi assez médiocre des deux objets, s'interroger sur leur bien fondé. Dans le cas de Downton Abbey, le film ressemble à un Christmas special, ces épisodes exceptionnels plus longs qui sortent en période de fête. Dans le cas de Breaking Bad, le film constitue une sorte de coda pour fans laissés en plein suspens. Le dernier épisode ne concluait en effet pas à grand-chose et c'était plutôt tant mieux. L'intérêt me paraît dans ces deux cas assez limité, voire nul. Et vous, de quel œil voyez-vous le passage de la série au film?
Alors, qui s'empare cette question? Iris Bray.
Il me semble que ce passage de la série au film raconte la difficulté que nous avons de nous séparer des gens qu'on aime. Je trouve ça assez pauvre aussi. Je ne vois pas vraiment l'intérêt d'un revival ou d'une deuxième fois. Je pense qu'il faut... Enfin, la beauté sérielle, c'est aussi de savoir dire au revoir à des personnages qui nous ont accompagnés pendant de nombreuses années. Je comprends la tentation de les retrouver, mais finalement, on est toujours déçus. Donc, il me semble qu'il serait plus sage que tout le monde apprenne à vivre avec le deuil plutôt que de toujours chercher à retrouver ce qu'on a un jour connu.
Oui, Joya.
C'est quand même des cas particuliers. Il y a un effet pantoufle quand on arrive dans Downton Abbey, le film. Et puis, au bout de 10 minutes, on se dit que pourquoi est-ce qu'on est dans une salle de cinéma?
C'est mieux
on comprend pas trop, en fait.
Donc, carrément.
Oh bah oui,
non, mais ce qu'il y a, c'est quand même. En fait, ça pose plein de questions que je trouve intéressantes, alors que les objets eux-mêmes ne sont pas forcément fascinants. Quoique El Camino est assez intéressant. Là, petite parenthèse, on parle d'univers masculin. Je crois qu'il y a deux personnages féminins qui ont droit à une minute à peu près. Chacune. Donc c'est terriblement masculin, comme ça l'était depuis le début d'ailleurs, Breaking Bad quasiment, avec le personnage de la femme de Walter White qui était pour le moins laissé de côté et qui était surtout violentée et qui était extrêmement attaquée de l'extérieur. Oui. Moi je la trouvais plutôt attachante, mais c'était un personnage de vraiment radicalement maltraité dans la série. Là, disons que dans le cas de Breaking Bad, qui m'intéresse un peu plus que le cas de Downton Abbey, ça montre le surmoi cinématographique des séries aujourd'hui. Enfin, c'est-à-dire que quand même, Vince Gilligan, sa grande ambition, c'est de faire des westerns, un grand western. Et là, dans cet épisode d'El Camino, il y a je dirais, encore plus de références directes au duel.
Elle est même thématisée, la référence au western. Il y a vraiment une scène où il s'agit de faire comme dans un western et où les personnages le disent.
Donc ça, effectivement, pour moi, c'est une impasse totale parce que c'est une sorte de karaoké. La série devient le karaoké du cinéma, ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, il y a quelque chose dans le... Comment dire d'assez émouvant. Pour le coup, les retrouvailles, elles sont pas anodines. Ça fait quand même 6 ans. Moi, j'ai toujours trouvé que Breaking Bad était une série à la fois passionnante et extrêmement scolaire dans sa façon de dérouler comme ça une tragédie, une figure du mal américain, du mal dans tous les sens du terme d'ailleurs. Et là, elle s'attache à un personnage en particulier qui était l'acolyte, donc le type un peu l'espèce de boussole morale de la série en fait, bizarrement, qui confronte à ses limites cette fois-là. Et il y a 10 dernières minutes que je trouve assez belles, qui sont simplement des scènes de retrouvailles, je dévoilerai pas, mais plus ou moins fantasmées, on ne sait pas exactement complètement ce qui s'est passé. Et là, on retrouve un sentiment sériel, en fait. Donc, en fait, c'est les séries qui sont intéressantes, hein, même quand on fait un film.
Oui, parce qu'il y a différents cas de figure. Là, en l'occurrence, on a une prolongation d'une histoire avec El Camino. Alors, Downton Abbey, c'est une sorte de déclinaison, comme vous disiez, Christmas Special, là, l'épisode de Noël, donc avec les mêmes, et ça, on pourra continuer la série. Elle est toujours en cours, cette série?
Ah non, non, je ne crois pas.
Elle est finie, Downton Abbey? Oui, donc ça... Voilà, on retrouve le plaisir, ça c'est l'effet pantoufle doudou. Comme on est en chantier aussi depuis très longtemps, la trilogie Walking Dead pour le cinéma, la trilogie Kaamelott, c'est un autre format, mais c'est Alexandre Astier, mais ça, là, l'effet doudou, il va être assez énorme, parce qu'on arrivera peut-être 10 ou 15 ans après la fin de la série télévisée. Mais vous parlez de questions industrielles tout à l'heure, et là, c'est quand même aussi, la plupart du temps, c'est le cas, parce que c'est Miami Vice, Starsky Hutch, Vidocq, Les Drôles de Dames, c'est-à-dire, on va proposer aux futurs spectateurs un univers qu'ils connaissent, dans lequel ils sont confortables. Ils vont avoir envie de retrouver un format. Alors, c'est un peu différent quand c'est Mission Impossible, mais quand c'est Les Agents Très Secrets ou Starsky Hutch, on est vraiment sur l'idée, venez, vous savez ce que c'est, vous allez être confortable. Et là, c'est vraiment un truc de production, vraiment.
Ouais, moi j'aimais bien Charlie's Angels et j'attends assez impatiemment le prochain épisode.
Ça peut être plus ou moins réussi. Moi j'ai bien aimé les agents très secrets, c'est comme ça que ça s'appelle. The Man from U.N.C.L.E.
Ah, je l'ai pas vu.
Ouais, moi je trouve ça bien. Ça... Mais non, il y a des choses plus ou moins réussies.
Kristen Stewart là, et puis Mission Impossible. Le cinéma s'est affranchi de la série.
Ouais. Ça c'est intéressant. Il y a une émancipation. Ouais. Lucille Comeau.
Oui, ce qui est intéressant aussi dans Breaking Bad, c'est vous parliez de cette scène finale de confrontation.
Moi, je l'ai pas vue encore. Hein. Je me bouffe les oreilles ou pas ?
Non.
Bon, d'accord.
Non, je parle juste de la forme. Ouais. En fait, il y a du coup dans le film des faux flashbacks entre guillemets, puisque les scènes qui précèdent l'action ne sont pas dans la série, mais elles sont contemporaines de la série. Et ça, c'est intéressant sur ce que ça dit de la série, c'est-à-dire que la série est un monde auquel on n'aurait pas eu entièrement accès, et donc le film se charge de nous donner accès à des choses qu'on n'a pas vues en tant que spectateur. Bon, c'est une illusion absolue, mais c'est assez intéressant. Et l'autre chose qui m'a frappée dans le film, dans El Camino, c'est de voir à quel point certains personnages et aussi acteurs, je pense, ne passent pas la barrière du format ou de la mise en scène type cinéma. Et je trouve que Jesse Pinkman, moi j'aime pas du tout Aaron Paul comme acteur. Je trouvais que dans la série, en tant que second permanent, ça passait. Et là, je trouve que à la caméra d'un film, enfin dans la mise en scène un peu cinématographique, ça fonctionne, mais pas du tout. Alors que à l'inverse, Jesse Plemons, qui joue un de ses tortionnaires dans la série, qui a un second rôle, qui est cet acteur roux, qui joue dans plein de séries américaines maintenant, et aussi des films, notamment dans Fargo, il est excellent, et c'est un vrai acteur de cinéma, et ça se voit. C'est assez mystérieux.
Et pourtant, vu sur un petit écran, puisque c'est un film Netflix, donc quand même, cette sensation, elle est là. Iris Bray.
Non, mais dans tous les exemples qu'on vient de donner, moi, il n'y en a quand même aucun où j'ai envie de replonger. Je trouve qu'il y a quand même tous ces reboots, enfin, donc, ce terme qu'on utilise pour dire qu'on va revenir, mais un peu différemment, un peu de côté, un autre angle, un autre acteur, une autre intrigue, une sous-intrigue, un peu, voilà, on va dans l'univers de Matrix, on prend une pilule d'une autre couleur et puis hop. Moi, c'est pas du tout un imaginaire qui m'intéresse, donc je préfère découvrir des choses nouvelles. Ces personnages-là ne me manquent pas, et même s'ils m'ont manqué à un certain moment, j'ai aucune envie
de me retrouver en leur compagnie. Je comprends l'effet pantoufle, mais justement, ça raconte quelque chose. On sait, tout ça est bien mou. Allons vers des créations nouvelles et des nouveaux imaginaires.
Oui, mais alors, il y a le fâcheux point Goodwin, vous savez, dans les conversations, mais il y a le point Twin Peaks. Et là, Twin Peaks Fire Walk With Me, qui vient après la série nous raconter ce qui s'est passé avant le début de celle-ci. Est-ce qu'on ne peut pas être d'accord pour dire que c'est... mais c'est Lynch, quoi. Est-ce
oui,
que c'est
je pas m'accorde sur Twin Peaks.
Ah, on est d'accord, Olivier Joya.
Ah oui, mais parce que ça dépasse le cinéma, la question du cinéma et des séries. Enfin, je veux dire, c'est,
on est dans n'empêche, là, on est typiquement une série qui donne un film.
On est dans une série... Oui, oui. Mais c'est le Lynch monde, quoi. C'est même plus le...
C'est le point c'est Twin Peaks.
C'est ça. Mais je la ressortirai, celle-là.
Ouais, je viens de l'inventer, je l'ai écrit, là, je me suis dit, c'est pas mal, le point Twin Peaks.
Je pense qu'effectivement, on peut l'utiliser dans beaucoup de conversations.
Ouais. Vous me citerez ou pas? Je pourrais être crédité.
Je ferai ça.
Toutes celles et ceux qui nous écoutent, créditez-moi.
Pour d'autres excellentes séries, ça peut même être un critère, je trouve, de classification de la qualité des séries. On n'imagine absolument pas qu'un film puisse être, enfin, ce serait l'enfer. On n'imagine pas Les Sopranos, le film ou Mad Men, le film. Ben, alors que moins bonnes séries. Hein. Ah non, c'est pas possible.
Mais si, ça y est, le style va faire un moment
mort,
panique.
Quand même,
ah bon,
l'acteur. Non, mais l'acteur.
Je sais.
C'est un prequel et qui sera, je crois, joué par le fils de l'acteur. Là, on est, c'est quand même une dimension proustienne, un peu, enfin quelque chose d'un peu étrange.
Proustienne ou l'industrie encore
de rapace. Là, pour le coup, David Chase, je crois en lui.
C'est lui qui porte le projet quand même.
Oui, absolument. Ouais. Mais je crois que c'est pas encore complètement certain. Mais par contre, effectivement, une suite aux Sopranos, ça serait absolument sacrilège.
Bah oui, mais pourquoi il y aurait des choses plus sacrées que d'autres?
Parce que cette fin-là, elle débranche tout. Elle nous explique qu'il faut vraiment accepter.
La mort.
Ouais, des deux côtés de l'écran.
Il faudrait conclure, mais il est 19h53. Moi, c'est je veux ça. Bien qu'on
parle
de la musique ou on peut parler de... Non.
Non, je pense qu'effectivement, là, une fin comme la celle des Sopranos, un écran noir, on ne peut pas vraiment faire mieux que ça. Quant à Lynch, je pense que ce qui est intéressant dans les saisons qui suivent et dans la possibilité qu'il y en ait encore une autre, c'est que c'est justement un auteur et un réalisateur qui ne fait que penser à qu'est-ce que c'est que le format et qu'est-ce qui se raconte dans un format sériel ou cinématographique et qui s'adapte en fonction. Et là, c'est-à-dire que la série permet de nous montrer des choses qu'on n'aurait jamais pu voir au cinéma. Donc, je veux dire, tout ça, c'est une question d'intelligence du format. Je pense que dans Downton Abbey, il n'y a pas une vraie réflexion autour de qu'est-ce que c'est que le cinéma et le format en salle, plutôt que ce qui nous a ému.
C'est dommage, ça aurait pu. C'est-à-dire que Downton Abbey, on peut imaginer un grand film romantique avec une forme de lyrisme.
On appelle James Ivory pour le réaliser.
Voilà. De fait, l'esthétique, elle reste totalement télévisuelle avec quelque chose de très séquencé, le retour permanent du générique qui est infernal. Et puis, c'est exactement les mêmes plans extérieurs sur ce fameux manoir de Downton Abbey et les grandes pelouses vertes et les collines verdoyantes derrière. Il y a quelque chose à faire avec ce type de décor sur un grand écran au cinéma. Et là, rien n'est fait. C'est-à-dire qu'on ne se préoccupe pas du tout, justement, de la question du format.
Il est peu probable qu'une mauvaise série devienne un très très bon film, quoi. C'est un peu de manière générale, je sais pas. Mission Impossible, c'est une très bonne série. Starsky et Hutch, c'était pas un bon film.
Pas un bon film non plus.
C'est ça qui est compliqué. Moi, je trouve simplement qu'il y a quelque chose de passionnant qui se joue, parce que de toute façon, les séries viennent à la fois de la télévision, mais aussi de la littérature populaire du 19e, de la radio, des séries aussi. Donc il y a forcément une hybridation possible en fait dans les séries. Donc amener d'autres imaginaires, d'autres façons de mettre en scène, et cette idée que beaucoup de réalisateurs de cinéma, alors qui n'est vraiment pas nouvelle, mais qui aujourd'hui règne un peu partout, les deux séries françaises dont on a parlé ce soir sont des réalisateurs qui ont été d'abord identifiés comme réalisateurs de cinéma. Fabrice Gobert, maintenant on peut dire qu'il est plus un réalisateur de série, mais voilà, c'est presque la question peut-être la plus intéressante, contemporaine, disons, celle de l'hybridation potentielle, qu'une série soit un peu différente de ce qu'est vraiment une série historiquement. Parce qu'aujourd'hui, on voit ça transforme tout, en fait. Moi, je vois plus de séries comme Urgence aujourd'hui, par exemple. Urgence a été fondatrice dans mon rapport personnel aux séries, à la sérialité, au retour du mème, etc. Avec ce côté romanesque permanent aussi. Mais on voit bien que le genre est en train de se transformer. Donc, c'est pas anodin non plus que ces films-là arrivent à ce moment-là, parce que ça travaille tout le monde, quoi.
Ça, c'est une belle conclusion, parce que c'est la bonne heure en plus. Ça tombe bien. Bravo, Olivier Joyard. On referme les pages de ce journal de la dispute. Avant de conclure l'émission, le jeu de la dispute, c'est David Dana qui nous rejoint chaque soir pour nous donner dans un premier temps la réponse au jeu d'hier. Il nous rappelle sa question.
Qui sont les créateurs du festival Pulse, Guy Cassier et Le Tonelius?
Ce soir, des invitations à gagner pour aller à la FIAC au Grand Palais qui se déroulera du 17 au 20 octobre. Quelle est la question?
Que symbolise le bouquet de tulipes de Jeff Koons installé dans les jardins des Champs-Élysées?
Vous cherchez les ennuis là, hein, David Dana, c'est vous êtes responsable de cette question. La réponse, vous l'envoyez avec vos coordonnées postales à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission, vous pouvez bien sûr la réécouter sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Vous pouvez aussi vous abonner à son podcast. Elle était préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pinault et David Dana. Prise de son ce soir, Jérémy Kaufmann et réalisation Alexandre Fougeron. Lundi, la dispute sera théâtrale à 19h avec vous, Lucille Como, avec Marie Sorbier et Philippe Chevillier. Nous parlerons de la Gioia de Pippo Del Bono. The Jungle Book, dans une mise en scène de Robert Wilson. Il y aura un coup de cœur de Philippe Chevillier. Non, ce sera On a changé, parce que Marie Sorbier voilà, rendra hommage à Peter Handke pour son prix Nobel. Il y aura de quoi débattre. Et on débattra aussi autour des textes de non-fiction portés sur les plateaux, thème du journal de la dispute lundi.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Vampire, vous avez dit vampire? C'est samedi ou jamais sur France Culture, François Angelier.
La vie de Bram Stoker, le créateur de Dracula, une vie complexe, mystérieuse pour un mythe littéraire qui ne l'est pas moins, un mauvais genre qui visite en détail la grande exposition Vampire que l'on peut voir à la Cinémathèque jusqu'en janvier 2020, et puis une fiction radiophonique autour de John William Polidori, l'un des inventeurs du vampirisme. Laissez-vous tenter, laissez-vous mordre.
Bram Stoker, une vie, une œuvre à 15h, 21h la fiction, mauvais genre à 22h, laissez-vous vampiriser ce samedi sur France Culture. France Culture présente l'exposition Hans Hartung, la fabrique du geste. Artiste majeur du XXe siècle, Hans Hartung fut un précurseur de l'abstraction. Entravé par les événements de son époque, le fascisme, la précarité de l'après-guerre, il ne cessera pourtant jamais de peindre. La richesse de ses expérimentations artistiques en fait un peintre moderne dont les travaux résonnent dans le monde contemporain. Hans Hartung, la fabrique du geste, du 11 octobre au 1er mars au Musée d'Art Moderne de Paris. Un partenariat France Culture avec Arte.
Et ce soir, sur France Culture, Marie Richeux reçoit la plasticienne Neil Yolter dans Paris Temps qui court à 21h. Avant cela, c'est un typographe, André Balinger, qui sera l'invité d'Aude Lavigne à 20h55 dans les carrés de la création. Fiction de France Culture, cinquième épisode des pages arrachées à Sylvain Tesson et tout de suite à Voix Nue.